Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Marie Duhamel.
Des images étonnantes pour une rencontre historique. Ce samedi, deux hommes vêtus de blanc se sont pris dans les bras l'un de l'autre avec chaleur. Nous sommes frères. Côte à côte, le pape François et son prédécesseur ont prié ensemble avant de discuter pendant plus de 40 minutes. Nous revenons sur ce grand moment de communion ecclésiale dans un instant. Sans vérité, pas de paix véritable. Dans cette émission, nous revenons sur le discours prononcé par le pape François devant les 180 ambassadeurs accrédités près le Saint-Siège. Vous entendrez l'un d'entre eux dans cette émission, son Excellence Charles Gillin, ambassadeur de Belgique près le Saint-Siège, ainsi que le nonce apostolique en Syrie, Monseigneur Zenari. Et puis enfin, avant le commentaire de l'évangile de ce dimanche, des rameaux, nous entrons dans la Semaine Sainte également avec notre livre pour Dieu. Sœur Catherine Aubin a interrogé Antoine Birot sur son chemin de croix trinitaire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission en langue française de Radio Vatican. Ce samedi, des centaines de personnes, des fidèles mais aussi des journalistes ont passé plusieurs heures sur la place centrale de Castel Gandolfo. Ils espéraient voir le pape émérite et le pape François apparaître au balcon des appartements pontificaux de la résidence d'été des papes. Cela n'était pas prévu, cela n'a pas eu lieu. Le face-à-face inédit entre les deux hommes, deux papes, l'un en exercice, l'autre émérite, a suscité, il est vrai, une vive curiosité, une très grande attention, car moins de 10 jours après son élection, le pape François a en effet tenu à rencontrer physiquement son prédécesseur. Il s'est donc rendu à Castel Gandolfo, où réside Benoît XVI depuis le 28 février dernier, quand a pris fin son ministère pétrinien après sa renonciation. Retour sur cette rencontre historique avec Antonino Gallofaro.
Une accolade d'abord, quand François sort de son hélicoptère pour être accueilli par Benoît XVI. Et puis ces mots du nouveau pape au pape émérite. Nous sommes frères. La scène a lieu quelques minutes plus tard. Les deux hommes se trouvent alors dans la chapelle du palais apostolique de Castel Gandolfo pour un moment de prière. Quand Benoît XVI offre à son successeur la place d'honneur, François lui répond qu'en frère, il veut qu'ils s'agenouillent ensemble au même banc. L'image, difficilement imaginable il y a seulement quelques semaines, est forte. Deux papes, en blanc et agenouillés, prient ensemble face à une figure de la Sainte Vierge Marie. François a ensuite offert une icône au pape émérite, puis ils se sont rendus tous deux dans la bibliothèque du palais, là où normalement le pape reçoit les invités de marque. Pendant 45 minutes, ils sont restés ensemble pour une rencontre privée avant de déjeuner avec leur secrétaire. Ce n'est pourtant pas le premier échange entre François et Benoît XVI. Avant ce face-à-face, le nouveau pape avait déjà téléphoné deux fois à son prédécesseur. La première, c'était le soir même de son élection, le 13 mars. Enfin, à chaque fois qu'il prend la parole, le pape en exercice exprime toujours sa gratitude et celle de l'Église au pape émérite pour son pontificat.
À 10h ce samedi matin, le pape François a par ailleurs reçu en audience sa béatitude Ibrahim Isaac Sidrak, le patriarche d'Alexandrie des Coptes catholiques, patriarche depuis seulement quelques mois en Égypte. Après la démission du patriarche Naguib pour raison de santé, le synode de l'Église catholique copte l'a en effet élu le 15 janvier dernier. Trois jours plus tard, Benoît XVI lui avait accordé la communion ecclésiastique. Et puisque l'on parle d'Égypte, sachez que le grand imam d'Al-Azhar a envoyé un message de félicitations au pape François. Al-Azhar, cette référence pour le monde sunnite, monde musulman sunnite. Dans ce message, Ahmed El-Tayeb souhaite, lors de son pontificat, un monde d'amitié, de coopération, la consolidation de hautes valeurs communes, l'éradication de la culture de la haine et de la rancœur pour le bien de toute l'humanité dans ce monde, dit-il, de changement qui a besoin de paix et de stabilité. Fin de citation. Sur les 160 000 chrétiens qui vivaient à Alep au début du conflit en Syrie il y a 2 ans, entre 20 et 30 000 auraient quitté la ville. propos de Mgr Antoine Audot, évêque syrien chaldéen d'Alep. Il est le responsable aussi de Caritas Syrie. Dans un entretien accordé au quotidien libanais L'Orient le Jour, l'évêque chaldéen d'Alep a fait état de sa situation douloureuse de ne plus pouvoir être avec ses fidèles. La fermeture de l'aéroport d'Alep et les routes dangereuses ont empêché son retour, a-t-il expliqué, ajoutant que l'on lui déconseille d'y aller malgré son fort désir d'être auprès de son peuple. Il travaille donc depuis Damas. C'est là que réside le nonce apostolique, Mgr Zenari. Il revient pour nous sur le discours du pape François prononcé ce vendredi face aux ambassadeurs du monde accrédités près le Saint-Siège.
Ici en Syrie, après 2 ans, nous voyons chaque jour dans un endroit ou l'autre des hautes colonnes de fumée noire qui montent vers le ciel presque à former de nuages. Colonnes noires à cause des explosions et des bombardements. Dans son discours au corps diplomatique, le Saint-Père a remarqué « La paix ne peut pas être véritable si chacun est la mesure de lui-même ». Si chacun peut revendiquer toujours et seulement son droit personnel, sans avoir les soucis en même temps du bien des autres, de tous. À partir de la douloureuse expérience qu'on vit en Syrie et dans d'autres pays du monde qui souffrent à cause de la guerre civile, on pourrait dire qu'elle est très forte, la tentation de réduire l'adversaire au silence par la force, de mettre l'autre hors de jeu. Mais gagner la guerre ne veut pas dire gagner la paix. Sous les cendres d'une victoire par la force, reste toujours le feu de la revanche et de la haine. La paix, on la gagne ensemble. C'est un chemin long, difficile et qui demande beaucoup de courage. On doit être prêt au bon et nécessaire compromis, à céder quelque chose les uns et les autres, mais à la fin, c'est un gain pour tous. À partir de l'expérience qu'on vit en Syrie, vient spontanée ces réflexions du passage, du discours du Saint-Père. La paix n'est pas véritable si chacun est la mesure de lui-même.
Mgr Zenari, nonce apostolique en Syrie, il était interrogé par Giancarlo Lavella. Il n'y a pas de véritable paix sans vérité, on vient de l'entendre. Le pape François s'est donc adressé ce vendredi matin au corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège. Un message au monde dans lequel il a également déploré la pauvreté spirituelle des pays les plus riches. Parmi les 180 États qui entretiennent des relations diplomatiques avec le Saint-Siège, la Belgique. Nous avons rencontré l'ambassadeur de Belgique accrédité près le Saint-Siège. Il s'agit de son Excellence Charles Ghislain. Il revient sur cette première rencontre avec le pape François sur la forme et le contenu de son discours.
Les ambassadeurs auprès du Saint-Siège sont, je pense, très reconnaissants au Saint-Père d'avoir accepté de nous rencontrer si rapidement. Je pense, en tout cas c'est comme ça que je l'ai interprété, que c'était vraiment voulu la part du Saint-Père pour marquer précisément cette identité universelle de l'Église.
Le pape François a invité tous les ambassadeurs à édifier des ponts en luttant contre la pauvreté matérielle mais aussi spirituelle.
Oui, mais il y a là une grande continuité avec ce que le pape Benoît nous disait déjà. Nous devons absolument veiller à préserver l'intégrité humaine, respecter l'homme dans ce qu'il est et continuer à en faire le centre de notre action, de nos valeurs, et éviter que l'homme soit un instrument, un produit. Nous avons noté aussi, bien sûr, l'accent sur la nécessité de bâtir des ponts entre les différentes religions, entre les différentes nations. Nous savons tous que le pont le plus difficile à bâtir, c'est le pont entre l'islam et le christianisme. Parce qu'il s'agit non seulement de deux religions différentes, mais aussi de deux systèmes de valeurs différents. Or, bien entendu, nous, Belges, comme un certain nombre d'autres pays francophones, sommes confrontés à cette nécessité de bâtir des ponts, puisqu'il faut coexister, avec les pratiquants de l'islam.
Dialoguer avec les autres religions, mais aussi dialoguer avec les non-croyants. Le pape François en a parlé dans ce discours au corps diplomatique. Il en a parlé pour la deuxième fois depuis le début de son pontificat.
Alors, le Premier ministre Di Rupo a bien relevé devant la presse lors de son séjour ici que le souverain pontife avait déjà mentionné cette nécessité de dialogue avec les non-croyants. Et il a mis en relief devant la presse belge cette dimension qui, en effet, pour nous, Belges, est essentielle. Étant donné que nous aussi, nous sommes un pays où il y a une complète séparation entre l'Église et l'État. Que le souverain pontife estime que ce qui existe depuis un certain nombre d'années, les parvis des gentils, devrait se développer, s'étendre, et qu'il faut augmenter considérablement ce dialogue, eh bien tant mieux, c'est en effet une chose que nous souhaitons.
Charles Gislin, ambassadeur de Belgique près le Saint-Siège, des propos recueillis par Hélène Destombes. Demain, dimanche des Rameaux, avant l'Angélus, prière récitée depuis la fenêtre des appartements pontificaux, la messe sera présidée dès 9h30 par le pape François sur la place Saint-Pierre. Le pape bénira des branches de palme venant de Ligurie et d'oliviers venant des Pouilles, de régions italiennes. Avec cette célébration de l'entrée solennelle du Christ à Jérusalem, nous entrons dans la Semaine Sainte et notre programmation s'adapte. Ainsi, le livre pour Dieu de cette semaine est un chemin de croix. Trinitaire. Cette méditation nous fait entrer dans la vie de la Trinité, ou pour le dire autrement, nous fait regarder comment le Père et l'Esprit accompagnent ce que vit le Fils à la croix. L'auteur de cet ouvrage est le Père Antoine Birot, qui a traduit plusieurs ouvrages de Hans Urs von Balthasar et publié La dramatique trinitaire de l'amour. Catherine Aubin l'a interrogé pour nous sur la singularité de ce chemin de croix.
Antoine Birot, vous venez de publier Un chemin de croix. En quoi ce chemin de croix est-il singulier ?
Il est composé de citations provenant de l'œuvre de Balthasar, Hans Urs von Balthasar et Adrian von Speyer. Il est exactement un chemin de croix trinitaire parce qu'il veut bien montrer comment toute la Trinité est impliquée dans la passion de Jésus.
Alors à la 12e station, vous écrivez « Les mystères de la passion ont leur sommet dans le cri de l'abandonné de Dieu » à la croix, et vous prenez l'exemple, vous citez, « Les enfants jouent tranquillement quand ils savent que leur mère est dans la pièce à côté. Le Fils a toujours su en tant que Dieu que le Père était là tout près, pour ainsi dire. On pouvait à chaque instant lever les yeux vers lui. À la croix, cette conscience n'existe plus, le Père est voilé. »
Oui, avec cette citation, on touche le cœur du mystère, vraiment le plus profond dans la passion. Jésus, dans la croix, se trouve être chargé du péché du monde. C'est un mystère qu'on ne pourra jamais élucider complètement. On peut simplement l'approcher. Le fait d'être chargé du péché occasionne pour Jésus un voilement intérieur de sa vision du Père. Lorsque Jésus s'est trouvé dans la passion, par amour, chargé du péché du monde, il a donc expérimenté de l'intérieur le fait de se sentir éloigné du Père. En réalité, le Père n'a jamais abandonné son Fils. Le Père était toujours auprès de Jésus à la croix avec le Saint-Esprit. Mais Jésus a, lui, éprouvé l'abandon.
À la 14e station, vous écrivez « Dans le mystère du samedi saint, les mystères les plus variés se rencontrent. Il y a le mystère de la mort, tel que la vie, le Fils, le mystère de la descente aux enfers, le mystère du péché humain, le mystère du retour du Fils vers le Père. »
C'est le contenu du mystère du samedi saint tel que Adrian von Speyer l'a vécu mystiquement. Balthasar fut témoin pendant des années auprès d'elle du fait que Jésus, après le moment de sa mort à la croix, connaît une descente qui est donc d'abord une chute dans la mort, dans l'état de mort, c'est-à-dire le lieu où il n'y a plus aucune lumière, aucune relation qui ne subsiste avec Dieu, avec le monde de Dieu, donc avec le monde de la vie, et il y a une privation désormais complète de la foi, de l'espérance, de l'amour. Deuxièmement, dans cet état de mort, Jésus a donc connu la descente aux enfers, dans laquelle, en fait, il nous a rejoints, chacun de nous, chaque homme, dans notre état d'éloignement de Dieu. Le Fils est en train d'expérimenter l'état de mort, qui est le destin final de l'homme pécheur. Et le Père le porte en quelque sorte, le place, le porte jusqu'au point le plus bas, donc l'éloignement maximal qu'on peut imaginer par rapport à Dieu. Et Jésus connaît donc là une descente qui est vécue dans une obéissance absolue. Et alors, un autre aspect maintenant qu'il faut dire, c'est que le Fils voit dans cette descente ce que le Père lui montre, et il voit comme un mort peut voir, c'est-à-dire que c'est une vision qui est donnée par Dieu. C'est la vision de tout le péché du monde qui a été porté par Jésus lui-même à la croix, mais qui justement a pu être par là détaché de l'homme. Et donc, le samedi saint, Jésus reçoit la vision du péché détaché de l'homme. Et le Père lui donne cette vision parce que Jésus est le Rédempteur, car c'est bien le signe de sa victoire. Donc le Fils, à ce moment-là, ne peut pas avoir encore la connaissance que c'est justement le signe de sa victoire, la victoire de l'amour.
Le Père Antoine Biraud, interrogé par Sœur Catherine Aubin. Il est temps maintenant de retrouver le commentaire de l'Évangile de ce dimanche des Rameaux. Cette semaine, le Père Pascal Moravit commente pour nous l'Évangile de la Passion de Jésus-Christ selon saint Luc.
Nous célébrons aujourd'hui le dimanche des Rameaux. Jésus entre dans Jérusalem. Il est accueilli avec joie par toute la foule des disciples, alors que quelques pharisiens sont dérangés par un tel mouvement. Cet événement qui précède de peu la Passion nous offre trois enseignements importants. Tout d'abord, les disciples sont associés à l'entrée de Jésus à Jérusalem. Jésus en envoie deux pour chercher un petit âne. Bien sûr, la participation des disciples semble assez modeste, mais elle préfigure leur mission au lendemain de la résurrection. Jésus n'agit pas seul. Il a besoin des apôtres pour l'annoncer à toutes les nations et faire d'autres disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est important de noter que dans cette mission, Jésus a lui-même tout préparé. Lorsque les disciples vont chercher l'ânon à l'entrée du village, il est dit qu'ils partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Lorsqu'un chrétien témoigne, il le fait au nom du Christ et avec l'Esprit Saint qui lui enseigne à cette heure même ce qu'il doit dire. Ensuite, si Jésus choisit d'entrer à Jérusalem en montant un ânon, c'est qu'il veut enseigner la foule sur la nature même de sa messianité. Jésus n'est pas un roi selon les critères de ce monde, ni un chef militaire qui chasserait l'envahisseur romain. Il est un Messie humble qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Il accomplit ainsi la prophétie de Zacharie. « Voici que ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » À Gethsémani, Jésus aurait pu faire appel à son Père qui lui aurait fourni sur le champ plus de 12 légions d'anges. Mais Jésus s'est laissé arrêter, comme un agneau que l'on conduit à l'abattoir. Enfin, le contraste est criant entre la foule qui s'exclame « Béni soit celui qui vient, lui, notre roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux !» et quelques pharisiens qui demandent à Jésus de faire taire la foule. Cette opposition entre disciples et pharisiens invite une nouvelle fois l'auditeur de l'Évangile à choisir qui il suit. Participera-t-il à la joie de la foule qui loue Dieu à pleine voix? Ou restera-t-il sceptique et dubitatif, voire même exaspéré par cette manifestation de foi? La réponse de Jésus aux pharisiens peut surprendre. S'ils se taisent, les pierres crieront. Une chose est sûre, le maître de l'histoire, c'est Jésus. Si les hommes refusent de l'accueillir, ce sont les pierres qui le proclameront. Nous retrouvons ici ce qui était affirmé au début de l'Évangile avec l'ânon attaché à l'entrée du village. Le Seigneur a son plan de salut et c'est lui qui dirige le temps. Cette affirmation de foi est fondamentale. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur tient toutes choses entre ses mains. Il est vrai que parfois sa sagesse nous dépasse complètement et nous ne comprenons pas la logique divine. Pourquoi Dieu le Père envoie-t-il son Fils mourir sur la croix afin que les hommes soient sauvés? Ce qui nous est demandé n'est pas de tout comprendre, c'est au-delà de nos capacités. Mais par la prière, nous pouvons découvrir que tout ce que Dieu fait est bon, que Dieu donne un sens à ce qui paraît insensé, voire même scandaleux.
C'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même lieu, même heure.